Radio Ndekiluga, le magazine parlementaire.
Bonjour à tous, nous voici présents pour la réalisation du dernier numéro du magazine parlementaire de Radio Ndekiluga pour l'année 2018. Il s'agit effectivement du 42e numéro. Ce magazine est consacré à la présentation cette semaine devant le Parlement centrafricain de l'impact du projet de relèvement et de consolidation de la paix RCPCA amorcé depuis 2 ans. Nous irons dans les premières circonscriptions du 4e arrondissement de Bangui et à Djema dans le Ombomou pour parler des activités menées par les députés de ces localités. La loi sur les communications est encore adoptée à l'Assemblée nationale sera aussi au menu. Nous sommes deux pour vous présenter cette émission.
Joël Bagalé.
Igor Djeske, ce n'est pas à la partie technique. Nous avons David Bema. C'est parti pour le magazine parlementaire de Radio Ndekiluga.
Radio Ndekiluga, le mag parlementaire.
Bonne année à tous. Les députés centrafricains, désormais informés sur l'état d'avancement du plan de relèvement et de consolidation de la paix RCPCA en cours dans le pays.
C'est à travers une présentation jeudi dernier à l'hémicycle de l'Assemblée nationale faite par la coordination permanente du RCPCA. Ce projet de plus de 1 500 milliards de francs CFA est aujourd'hui financé à plus de 800 milliards par les partenaires, soit environ 54%.
Les avis des députés sont divergents sur les actions déjà réalisées dans ce plan de sortie des crises et dans certaines villes de province du pays. C'est l'exemple du parlementaire Amadou Aboubakar Kabirou de Bambari 1 dans la Waka.
Il reconnaît certains nombres de réalisations dans sa zone choisie par le gouvernement comme ville pilote du RCPCA Amadou Aboubakar Kabirou.
Tout d'abord, je remercie le gouvernement et je remercie le chef de l'État en particulier pour avoir choisi Bambari, ville pilote ou ville sans armes. Et aujourd'hui, on a constaté que ça commence à réaliser petit à petit. On a vu des bâtiments réfectionnés, tous les bâtiments de l'État étaient réfectionnés. Et j'ai vu le GIC présentiel aussi a été construit et la préfecture de Bambari. Ça s'est bien passé, et ça a bien réalisé le projet. Mais notre inquiétude, c'est qu'on leur donne le marché pour aller construire, c'est eux qui ne font pas leur travail normalement. Mais le projet vraiment, c'est un projet abordable. Vous savez, la mentalité des centrafricains, si on te donne un marché de 20 millions ou 30 millions, tu vas aller construire des choses de 10 ou 5 millions et le reste là, tu mets dans ta poche. C'est ça le mal centrafricain. Si vraiment le centrafricain change, si on te donne le marché de 10, 20 millions, tu peux aller construire des trucs de 15 millions ou 18 millions. Tu peux bénéficier à 2 millions. Mais pourquoi bénéficier plus que même le propriétaire? C'est ça qui est mauvais.
Est-ce que vous êtes satisfait?
Oui, je suis satisfait. Je suis satisfait. Le travail comme Bambari, Suazi, ville pilote, vraiment, je suis très satisfait. Et démontrer la population d'œuvrer pour que la paix revienne, pour qu'on cherche à aller faire la fête des moissons à Bambari. Parce que c'est reporté. Moi, je suis inquiet. Chaque fois, reporté, c'est pas bien. Il faut le gouvernement prendre des responsabilités. Parce que la population aujourd'hui, ils veulent vaquer à leurs occupations. Et les groupes armés sont là avec des armes, ils occupent toute la ville. J'ai parlé, j'ai crié à la radio, mais jusqu'à présent, personne ne m'a su. Je sais pas pourquoi, mais je demande toujours au gouvernement d'œuvrer pour que la paix revienne définitivement à Bambari.
Par contre, Ghislain Magloire Makango, député de Mbaki 5 dans la Lobaye, déplore le fait que ce programme de relèvement n'est pas encore effectif dans sa région. Il souhaite une action équitable dans toutes les préfectures de la RCA. Magloire Ghislain Makango.
Vous savez, quand un père de famille reçoit quelque chose, il faut repartir équitablement. Aujourd'hui, nous avons 16 préfectures. Le peu que le gouvernement a reçu, il faut repartir dans les 16 préfectures. Parce qu'aujourd'hui, dans les 16 préfectures, le plan éducation et la santé pose beaucoup de problèmes. Et donc, ce que le gouvernement a reçu, j'aimerais que le gouvernement puisse repartir dans les 16 préfectures. Il ne faut pas compter seulement sur le Bambari, mais il faut compter aussi sur d'autres préfectures, d'autres villes où il y a trop de problèmes aussi.
Surtout dans votre localité où il y a la sécurité, on peut déjà vous penser, non?
Mais c'est ce que le gouvernement devait faire. Le gouvernement devait aller dans des préfectures où il y a la sécurité, comme la Lobaye, la Sangambaere, la Mambéry-Kadi, la Namambéry, l'Ambilapoko. Commencer d'abord à faire quelque chose là et en attendant, continuer à chercher à avoir de dialogue ou de plaidoyer auprès de nos frères, nos compatriotes de Bambari et d'autres préfectures. Normalement, la Lobaye aujourd'hui devait bénéficier à 40% ou à 100% de ses fonds déjà. Parce que nous, on a la sécurité là-bas et que la population souffre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la guerre dans la Lobaye. Mais les écoles, il n'y en a pas. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de médicaments, il n'y a même pas de personnel. Mais pour les écoles, il n'y a même pas des enseignants. Et donc ça, c'est des besoins vraiment réels pour que le gouvernement puisse s'appresenter là-dessus pour essayer d'aider ces écoles, de sorte que la Lobaye aider la population centrafricaine de l'arrière-pays. Mais ce que nous faisons en ce moment avec nos électeurs, toujours en leur disant, on essaie de faire quelque chose en attendant que le gouvernement vienne prendre ses responsabilités parce que ce sont les attributions du gouvernement. Et donc le gouvernement doit vraiment saisir cette occasion pour pouvoir arriver dans toutes les 16 préfectures du pays, parce qu'aujourd'hui les enseignants, il n'y en a pas. Les infirmiers dans les postes de santé ou centres de santé, même dans les hôpitaux comme Mbaïki, c'est des problèmes parce qu'on n'a même pas de lit, on n'a même pas de médicaments. Tout ça, là, ça pose beaucoup de problèmes. Et ça, c'est les attributions du ministère de la Santé qui doivent venir au chevet de la population qui souffre réellement. Malheureusement, le gouvernement, le ministère de la Santé tarde à venir. Et donc, nous demandons toujours au gouvernement de venir au chevet de la population parce que c'est le gouvernement qui est le patron, qui est le responsable, c'est l'exécutif qui doit fournir les écoles, les hôpitaux, les routes et autres. C'est pas aux députés.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Igor, faisons maintenant un tour dans les circonscriptions électorales.
Tout à fait, Jean-Eudes. Allons d'abord à Djema, dans le Mbomou. Les députés Lambert Akouvoulou, en mission parlementaire dans la localité, dénoncent l'absence de la couverture sécuritaire et la non-assistance aux déplacés de la région.
Effectivement, réaction faisant suite à une attaque meurtrière samedi dernier. Des hommes armés assimilés au Peul, au village Ngouzo, situé à 32 km de Zémio. Nous avons joint Lambert Akouvoulou depuis Obo.
Ce sont le Peul qui sont venus. Ils ont attaqué Nguyo et par après, ça fait 2 morts et quelques blessés qui sont maintenant à Djema. Donc, il y a que seulement le père qui règne au niveau de Djema. Et à Djema, il y a beaucoup de déplacés, plus de presque 6 000 qui sont à Djema sur place. Donc, c'est ça qu'on est inquiété par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de sécurité à Djema, il n'y a plus rien. Donc, il y a beaucoup de pères qui règnent. Au niveau de Djema, il n'y a pas de ONG internationales qui sont là. Il y a que seulement les gens de Djema qui sont pris les déplacer pour les héberger. Donc, il n'y a pas même de possibilité de faire le nécessaire pour eux. Donc, ils sont comme ça sur le Mongué. Ils n'ont rien. Vraiment, ça fait aujourd'hui presque 15 ans qu'il n'y a pas de sécurité à Djema. Il n'y a pas de MINUSCA, il n'y a pas de militaires, il n'y a rien. Il n'y a que seulement la population comme ça qui reste dans la sous-préfecture. Vraiment, ça fait peur. Donc, je demande au gouvernement qu'il fasse vraiment un effort pour envoyer le militaire très rapidement. Sans ça, ça risque de péter à Djema dans quelques jours.
Ici à Bangui, Jean-Eudes, dans la première circonscription du 4e arrondissement de Bangui, le parlementaire Apollinaire Francis Kouya Pende a célébré la fête de Noël avec les enfants de sa localité. Une occasion pour lui de remettre des jouets à plus de 400 enfants démunis. Apollinaire Francis Kouya Pende.
Je me suis rendu compte qu'il y a de ces enfants qui sont orphelins, qui n'ont pas de papa, qui n'ont pas de maman et qui errent dans le quartier. Et que je me pose la question, qui va leur donner les jouets pour qu'ils puissent s'amuser comme les autres? Et automatiquement, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment les faire venir. Et comme Dieu me donne un peu, je préfère les partager avec ces enfants. C'est pourquoi j'ai acheté ces cadeaux pour leur remettre. Parce qu'aujourd'hui, leur papa n'est plus avec nous. Leurs parents surtout ne sont plus avec nous. Et il ne faudrait pas qu'ils soient dépaysés. Il ne faudrait pas qu'ils soient mal vus. Il ne faudrait pas qu'ils soient découragés parmi les autres. C'est pourquoi je dis, même si leur papa n'est pas là, je suis là pour les aider.
Un mot de nouvel an, ça sera lequel pour vous?
Je leur dis que j'aimerais voir tout le monde en santé en l'an 2019, parce que l'an 2021 approche. Je voulais les voir tous en santé, c'est l'essentiel, et que Dieu donne le pain à chaque maisonnée, et que Dieu donne la force à chaque papa et maman d'aller au travail et de revenir pour s'occuper de leurs enfants, et que leur entreprise soit prospère.
La loi sur les communications électroniques déjà adoptée à l'Assemblée nationale a été révisée et révotée cette semaine à l'Assemblée nationale, Jean-Hugues.
Oui, nous avons interrogé les centrafricains qui ont apprécié la ratification de ce document.
Moi, je dirais que c'est une bonne initiative que je peux apprécier à sa juste valeur, parce que vous êtes sans ignorer que les coups d'État, les massacres qui s'effectuent en ce moment en République centrafricaine sont à la base de cet outil. Les gens restent à l'extérieur, soit à Bangui, ils communiquent sur l'Internet, ce qui aggrave la situation à laquelle nous sommes en train de vivre. Donc moi, je dirais que ce projet est la bienvenue en République centrafricaine.
À mon avis, c'est une très bonne initiative et les députés ont bien choisi de voter cette loi. Et là, ça contribue dans l'intérêt commun des Centrafricains. Et ça nous permet d'être en sécurité, quoi. Parce que il y a des faux jeux qui se passent souvent en ligne électronique. Il faudrait que ça soit contrôlé. Donc, à mon avis, c'est une très bonne initiative.
Je pense que ce projet qui a été voté par les députés de la nation, je pense que c'est un bon projet. J'apprécie ça. C'est juste pour contrôler les communications, pour ne pas que il y a des beaucoup à rames, il y a des phénomènes des terroristes qui infiltre partout. Ça, là, ça permet d'empêcher même l'entrée des Boko Haram et des désordres dans le pays.
À mon avis, c'est une belle initiative parce que vous savez qu'à l'heure actuelle où le monde est en mutation totale, donc il faudrait que les États, surtout notre pays, s'engagent quand même à faire quelque chose comme ça dans le sens de la sécurité et la nation.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Revenons maintenant vers le député Benjamin Kaigama, vice-président de la commission équipement et communication, pour des détails sur ce texte.
Bien avant cette adoption, la loi numéro 18-002 a été adoptée par la plénière. Et cette loi a fait l'objet de contradictions par la société Télécel qui avait déféré le département de poste et communication devant la Cour constitutionnelle. Mais l'avis de cette société a été débouté dans sa totalité. Mais la Cour constitutionnelle avait décidé pour la mise en conformité de cette loi par rapport à la Constitution. Donc voilà ce qui a été fait et la commission a été saisie pour la mise en conformité des trois articles. Donc en l'occurrence l'article 8, article 15 et article 16. Voilà ce qui a été fait dans le cadre de ce travail. Donc ce qui a été dit, l'article 8 ancien, il manquait ce qu'on appelle l'alinéa 2. Donc ancien, ça se stipule à ce titre, il détermine la politique générale de développement du secteur. Mais la Cour constitutionnelle a reformulé pour que ça soit conforme avec la Constitution par ces termes suivants. À ce titre, il contribue à la détermination de la politique générale de développement du secteur. Et l'article 15 ancien, c'est seulement l'avis du ministre des Finances qu'il fallait compléter par avis du ministre des Finances dans la prise de décision. Donc, article 15 et 16, donc pour que ça soit conforme, il faut compléter l'ancien par sur avis conforme du ministre des Finances, comme ça concerne Finances. Ce projet de loi avait été voté par unanimité et à main levée. Donc, c'est pour montrer l'importance de cette loi dans l'économie du pays. Donc, c'est pourquoi les élus du peuple ont pris conscience pour que cette loi soit à l'unanimité, parce que ça a l'importance pour l'économie, ça peut booster l'économie du pays.
Quelle serait la prochaine étape après l'adoption de ce projet de loi ?
L'adoption par la plénière, la prochaine étape c'est la promulgation par le président de la République. Donc nous allons transmettre cet amendement au bureau de l'Assemblée nationale qui va soumettre à la signature du président de la République pour la promulgation. Voilà les prochaines étapes de cette loi.
Qu'est-ce que Télécel n'a pas accepté dans ce projet de loi pour saisir la Cour constitutionnelle afin de déclencher toute cette procédure?
Télécel disait carrément que cette loi, malgré que la Télécel était mise à contribution pour la rédaction de cette loi, mais Télécel avait considéré cette loi à l'encontre de la Constitution en ce qui concerne le retrait ou l'attribution de licences. Télécel pensait qu'il fallait libérer. Or, c'est patrimoine de l'État. En ce qui concerne la communication, c'est le patrimoine de l'État. On ne peut pas donner la potentialité de communication à une tierce personne. C'est l'État toujours qui demeure le détenteur de la communication. Donc c'est pour sûr cela que Télécel a été débouté purement et simplement.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ndekeluka, émettant sur les 100.9 FM. Nous allons terminer cette émission avec la connaissance du terme conseiller parlementaire. La réponse avec Moussa Laurent Gonbaba, président de l'Assemblée nationale.
Le conseiller parlementaire, c'est d'abord un membre d'une institution de la transition qu'on appelle Conseil national de transition. Pendant la période transitoire, il n'y a pas eu des élections normales. Et donc, pour essayer d'instaurer la démocratie dans un État, afin que chaque couche sociale parvienne à se faire représenter, n'est-ce pas, au niveau des institutions du pays, il a été mis le Conseil national de transition. Et donc, les membres sont issus des différentes forces vives de la nation. Il y a des représentants qui viennent des partis politiques, il y a des représentants qui viennent des ONG, sociétés civiles, des secteurs d'activité tels que commerce, des secteurs sociaux tels que les syndicats, etc., etc. Et donc, le mode de désignation est très différent d'un membre de l'Assemblée nationale, parce que nous, les députés, nous sommes élus au suffrage universel, c'est-à-dire élus par la population. Alors que un conseiller national, membre du Conseil national de transition, lui, il est désigné par son entité à laquelle il appartient. Par exemple, quelqu'un qui est de syndicat, c'est son syndicat qui va se réunir et le désigner. Donc, les modes de désignation sont très différents. Ici, il n'y a pas de la représentation impérative. Voyez-vous, la règle de la représentativité ne se pose pas ici, concernant le Conseil national de transition, notamment le conseiller national. Et donc, ce sont ceux-là, issus des différentes forces vives de la nation, qui constituent ce qu'on appelle le Parlement de transition et donc le Conseil national de transition, dont le les pouvoirs sont limités. Parce que vous allez voir que pendant la transition, le Conseil national de transition n'exerce pas tous les pouvoirs dont dispose une assemblée nationale. Par exemple, l'un des moyens de contrôle essentiel du gouvernement, qui est la motion de censure, cela n'a pas été accordé au Conseil national de transition. Et donc voilà un peu la différence qui existe entre ceux qui sont issus des entités, des forces vives de la nation et qui constituent un parlement de transition, parce qu'il faut éviter le vide et donc faire en sorte qu'un organe parlementaire puisse exister pour accompagner le gouvernement dans les actions. Et donc alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée sont élus et ils s'appellent députés.
Cette rubrique met un terme à ce magazine parlementaire de la semaine. Tous nos remerciements à nos fidèles auditeurs, sans oublier le staff de communication de l'Assemblée nationale. C'était une présentation de Igor Jeskin, Sénat.
Et Jean-Yves Bagali.
À la gestion numérique, nous avons David Béman. Portez-vous bien. Bonne année et à la semaine prochaine.
Bonne année à tous.